mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte populaire russe intitulé « Le juge avisé », écrit par Léon Tolstoï et traduit du russe en français en 1890. Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons le discours de Jacques Chirac « Notre maison brûle », prononcé au sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure pour y rencontrer Yann, qui nous parlera de sa reconversion dans un métier lié aux plantes, à la nature et à l'environnement. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, où nous entendrons les réglementations liées aux entretiens individuels. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
Le juge avisé, écrit par Léon Tolstoï aux alentours de 1886, présent dans le recueil Autour du samovar, édité par la Société française d'imprimerie et des librairies vers 1890 dans la collection Nouvelle bibliothèque de vulgarisation. Traduction du russe par Boris Tsetlin et Ernest Jobert.
L'émir d'Alger, Bahouakas, ayant ouï dire que dans une ville de sa province vivait un juge merveilleusement habile à discerner le vrai du faux et à déjouer les ruses des fripons, dont pas un n'arrivait à le tromper, résolut de s'assurer par lui-même si l'on n'exagérait pas. Il se vêtit donc comme un marchand, et ainsi déguisé, s'en fut dans la ville habitée par le juge. Comme il entrait dans la ville, un estropié, s'approchant, lui demanda la charité. L'émir lui fit l'aumône et se remit en route, mais l'estropié l'arrêta par ses vêtements. « Que me veux-tu encore ? » lui dit Bahouakas. « Ne t'ai-je pas donné ?»
« Tu m'as donné, oui, » répondit l'homme. « Mais j'ai une autre grâce à te demander. Emmène-moi en croupe jusqu'à la grande place, de peur que les chameaux et les chevaux ne me foulent aux pieds. »
L'émir prit avec lui l'estropié, et dans cet équipage, ils gagnèrent la place. Une fois là, Bahouakas fit halte, mais l'estropié ne bougeait pas.
« Qu'as-tu donc à rester en croupe ? » nous sommes arrivés. Descends de mon cheval. »
Pourquoi descendre, puisque ce cheval est à moi ? Répliqua le mendiant. Si tu refuses de me le céder de bonne grâce, nous irons chez le juge.
Un cercle n'avait pas tardé à se former autour d'eux. On les écoutait discuter.
« Allez trouver le juge !» criaient des voix. « Il vous accordera !»
Alors l'émir et l'estropié s'enfurent chez le juge. Il y avait foule au tribunal. Le juge appelait successivement devant lui tous ceux qu'il avait à juger. En attendant son tour, l'émir regarda et écouta. Le juge prêtait en ce moment l'oreille aux déclarations d'un savant et d'un paysan, en dispute pour une femme, chacun des deux prétendant que cette femme était la sienne. Le juge les ouït, se tut un moment et dit enfin aux deux plaignants « Laissez la femme chez moi et revenez demain tous deux. » Puis ce fut le tour d'un boucher et d'un marchand d'huile, le premier taché de sang, le second taché d'huile. Le boucher serrait dans sa main une bourse, et le marchand d'huile serrait la main du boucher.
« J'ai acheté de l'huile à ce marchand, » disait le boucher. « Mais comme je portais ma bourse pour payer, il m'a saisi la main et a voulu me voler. Et nous comparaissons devant toi. Regarde, ma bourse dans ma main et sa main sur la mienne. Cet argent est à moi, et c'est lui le voleur. »
« Pas du tout, » ripostait le marchand d'huile. « Cet homme est venu pour m'acheter de l'huile et m'a prié de lui changer une pièce d'or. Moi, j'ai pris de la monnaie et l'ai étalée sur le comptoir. Lui, il a mis la main dessus et prenait vivement la fuite quand je l'ai saisi par cette main et traîné devant toi. »
Le juge les ouït, se tut un moment et dit enfin aux deux plaignants «
Laissez l'argent chez moi et revenez demain tous deux. »
Ensuite, le juge appela Bahouakas et le mendiant. L'émir exposa les faits. Puis le mendiant fut invité à s'expliquer.
« Ce n'est pas ainsi que la chose s'est passée, » dit-il. « C'était moi qui chevauchais par la ville, quand cet homme me pria de le prendre avec moi et de le conduire ainsi jusqu'à la place. Je l'ai fait monter en croupe et conduit où il m'avait dit. Mais là, il n'a pas voulu descendre et a soutenu que le cheval était à lui. C'est faux. »
Le juge les ouït, se tut un moment et dit enfin « Laissez le cheval chez moi et revenez demain tous deux. » Le lendemain, les gens accoururent en foule pour entendre les sentences du juge. Le savant et le paysan furent les premiers appelés.
« À toi, la femme, » dit le juge au savant.
« Et à toi, » ajouta-t-il en se tournant vers le paysan, « 50 coups de matraque. »
Le savant emmena la femme et le paysan fut bâtonné séance tenante. Ensuite s'approchèrent le boucher et le marchand d'huile.
« À toi, l'argent, » dit le juge au boucher.
« Et à toi, » ajouta-t-il en se tournant vers le marchand d'huile, « 50 coups de matraque. »
Puis ce fut le tour de l'émir et du mendiant.
« Saurais-tu reconnaître ton cheval au milieu de 20 autres ?» demanda le juge à Bahouakas.
« Je saurai. »
« Et toi ? » dit-il à l'estropié.
« Moi aussi. »
« Viens avec moi, » dit le juge à l'émir.
Tous deux s'en furent à l'écurie où l'émir reconnut sans hésitation son cheval entre 20 autres. Puis le juge fit venir l'estropié dans l'écurie et lui dit de reconnaître à son tour le cheval. Aussitôt, le mendiant le reconnut et le désigna. Alors le juge regagna son siège et il dit à l'émir «
Prends le cheval, il est à toi. »
En montrant l'estropié, il ajouta
« Et celui-ci, qu'on lui donne 50 coups de matraque. »
Ce qui fut fait aussitôt. Après quoi le juge s'en revint à son logis, suivi par Bahouakas.
« Que veux-tu ? » dit-il à l'émir. « N'es-tu pas satisfait de ma sentence ?»«
Pleinement satisfait, » répondit Bahouakas. mais je serais désireux de connaître comment tu as discerné que la femme appartenait aux savants plutôt qu'aux paysans, l'argent au boucher plutôt qu'aux marchands d'huile, et le cheval à moi plutôt qu'à l'estropié. Écoute donc comment j'ai discerné la vérité. Pour la femme, je l'ai fait venir ce matin chez moi et lui ai dit « Garnis mon encrier ». Elle a pris l'encrier, l'a nettoyé prestement et adroitement rempli. Preuve que ce soin lui était familier. Si c'eût été la femme du paysan, elle n'eût pu venir à bout de la besogne. Et c'est pourquoi j'ai jugé que c'était le savant qui avait dit la vérité. Pour l'argent, voici comment je m'y suis pris. Je l'ai placé hier dans une cuvette pleine d'eau, et ce matin, j'ai regardé s'il ne surnageait pas de l'huile. Car si c'eût été l'argent du marchand d'huile, le contact des mains huileuses l'eût certainement taché. Or l'eau étant demeurée pure, j'en ai conclu que c'était l'argent du boucher. Quant au cheval, la vérité était moins facile à démêler. L'estropié n'a pas mis plus de temps que toi à reconnaître le cheval entre 20 autres. C'est du reste uniquement pour voir qui de vous deux le cheval reconnaîtrait que je vous ai fait venir à l'écurie. À ton approche, ton cheval a tourné la tête vers toi et il a au contraire baissé l'oreille et rué lorsque le mendiant l'a touché. Et par là, j'ai jugé que le cheval était bien à toi. Bahouakas dit alors au juge « Je suis, non pas un marchand, mais l'émir Bahouakas. Je suis venu ici pour m'assurer par moi-même s'il n'y avait rien d'exagéré dans ce que l'on me disait de ton habileté. Je vois à présent à quel point tu es un juge sage et avisé. Demande-moi ce qu'il te plaira. Je te le donnerai. » « Il suffit à mon bonheur que l'émir m'ait félicité, » répondit le juge, « et je n'ai pas besoin d'une autre récompense. »
Les allumeurs de réverbères. Allumeurs de réverbères.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison. Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh ! Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Wow !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Mesdames et messieurs, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions, dont témoigne le nuage brun, s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Notre responsabilité collective est engagée. Responsabilité première des pays développés, première par l'histoire, première par la puissance, première par le niveau de leur consommation. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait deux planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Ces pays doivent admettre qu'il n'est d'autre solution pour eux que d'inventer un mode de croissance moins polluant.
10 ans après Rio, nous n'avons pas de quoi être fiers. La mise en œuvre de l'agenda 21 est laborieuse. La conscience de notre défaillance doit nous conduire ici, à Johannesburg, à conclure l'Alliance mondiale pour le développement durable. Une alliance par laquelle les pays développés engageront la révolution écologique, la révolution de leur mode de production et de consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront l'effort de solidarité nécessaire en direction des pays pauvres. Une alliance à laquelle la France et l'Union européenne sont prêtes. Une alliance par laquelle le monde en développement s'engagera sur la voie de la bonne gouvernance et du développement propre. Nous avons devant nous, je crois, 5 chantiers prioritaires. Le changement climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg doit s'élever un appel solennel vers tous les pays du monde et d'abord vers les grands pays industrialisés pour qu'ils ratifient et appliquent le protocole de Kyoto. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. 2 chantiers. L'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Appliquons les décisions de Doha et de Monterrey. Augmentons l'aide au développement pour atteindre dans les 10 ans au maximum les 0,7% du PIB. Trouvons de nouvelles sources de financement, par exemple par un nécessaire prélèvement de la solidarité sur les richesses considérables engendrées par la mondialisation. 3e chantier, la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes deux patrimoines communs de l'humanité, toutes deux sont menacées. La réponse, c'est l'affirmation du droit à la diversité et l'adoption d'engagements juridiques sur l'éthique. 4e chantier, les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies dans le respect du principe de précaution. La France proposera à ses partenaires du G8 l'adoption, lors du sommet des Vienne en juin prochain, d'une initiative pour stimuler la recherche scientifique et technologique au service du développement durable. 5e chantier, la gouvernance mondiale pour humaniser et pour maîtriser la mondialisation. Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent. Pour assurer la cohérence de l'action internationale, nous avons besoin, je l'ai dit à Monterrey, d'un Conseil de sécurité économique et sociale. Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de l'environnement. Pour vérifier l'application de l'agenda 21 et du plan d'action de Johannesburg, la France propose que la Commission du développement durable soit investie d'une fonction d'évaluation par les pairs, comme cela existe par exemple à l'OCDE. Et la France est prête à se soumettre, la première, à cette évaluation. Au regard de l'histoire de la vie sur Terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L'homme, point avancé de l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la vie ? Et c'est le risque qu'aujourd'hui nous courons par égoïsme et par aveuglement. L'homme est apparu en Afrique, voici plusieurs millions d'années, fragile et désarmé. Il a su, par son intelligence et ses capacités, essaimer sur la planète entière et lui imposer sa loi. Le moment est venu pour l'humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, dont chacune doit être respectée, le moment est venu de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de respect et d'harmonie, et donc d'apprendre à maîtriser la puissance et les appétits de l'homme. Et aujourd'hui, à Johannesburg, l'humanité a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que l'Afrique du Sud, cher Thabo Mbeki, cher Nelson Mandela, pays emblématique pour son combat victorieux contre l'apartheid, pour franchir cette nouvelle étape de l'aventure humaine. Je vous remercie.
Déclaration prononcée le 2 septembre 2002 par M. Jacques Chirac.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Je m'appelle Yann, j'ai 38 ans. J'ai passé une bonne partie de mon enfance au Brésil, de 4 à 15 ans, donc un univers riche en végétaux et en faune. Ça a déjà fait naître chez moi une passion pour le monde du vivant. J'ai une formation plutôt d'électronicien informaticien, où j'ai passé une bonne partie de ma carrière là-dedans. Et il y a maintenant une dizaine d'années, je pense, plus que ça. J'ai acheté cette maison à Soulé-Ribourg avec un sous-jardin qui s'appelle Hollywood Garden, qui veut dire la rose trémière, le jardin de la rose trémière. Et c'est ce jardin dont vous avez des rubriques régulièrement, où il est surnommé le jardin d'Anne-Laure. Ce jardin, moi je ne m'y connaissais pas vraiment en végétaux quand j'ai acquis ce jardin. Et donc j'ai entrepris tout un travail pendant une dizaine d'années de lister toutes les étiquettes que je trouvais dans le jardin. Et puis ensuite d'aller chercher dans le jardin, voir si je retrouvais le végétal en question. Ça m'a amené à les apprendre tous par cœur, hein. Donc un bon bagage en termes de reconnaissance de végétaux. Et puis ensuite, cette passion, ça s'est élargie vers la recherche sur les différentes interactions entre les végétaux et leur milieu, que ce soit avec les insectes, des végétaux aussi entre eux, ce qu'on appelle la phytosociologie, qui est l'étude des relations des plantes entre elles et avec leur milieu. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de me reconvertir. Je suis d'abord allé travailler dans des entreprises du milieu, c'est-à-dire je suis allé travailler dans une pépinière pour voir comment ça se passait, la multiplication des végétaux. Ça m'a donné déjà une première approche de ce métier. Ensuite, je suis allé faire des stages avec des amis qui travaillent dans le paysage. Et puis, il y a maintenant 2 ans, j'ai entrepris de me reconvertir. Et donc, j'ai suivi 2 formations. Une formation d'ouvrier du paysage et une autre formation de 6 mois, les 2 de 6 mois, en technicien de jardin espace vert. Ça a été assez rapide parce que je travaillais dans un centre de hotline où c'était un boulot plutôt alimentaire. Et donc ça allait assez vite. Bon, j'ai pris la décision, j'ai simplement contacté Pôle emploi, j'ai regardé un petit peu quel centre de formation faisait ce type de formation. J'étais orienté vers la MFR de Gênes. Et donc j'ai eu un premier rendez-vous, j'ai expliqué mon projet, ça a collé. Puis ensuite, peu de temps après, j'ai intégré la formation. Ben, j'avais un travail salarié, donc j'avais ouvert des droits à Pôle emploi. Et donc, c'est simplement Pôle emploi qui a pris en charge tous les frais de la formation. Donc, moi, je n'ai rien déboursé, mis à part, effectivement, les frais pour me déplacer, pour aller jusqu'à Gênes. Pour limiter les coûts, je dormais sur place parce qu'il y avait des chambres à disposition. Alors j'ai entrepris la formation d'ouvrier du paysage en 6 mois parce que je comptais commencer à travailler rapidement. Et donc je m'étais dit que ça, une simple formation d'ouvrier me permettrait de faire mon activité. Mais 6 mois, ça passe très très vite. Et au bout des 6 mois, je me suis rendu compte que non, j'étais pas prêt. Et donc j'ai poursuivi la formation de technicien jardin espace vert de 6 mois de plus. Et qui effectivement apporte des compétences supplémentaires, que ce soit dans le dessin, de savoir dessiner un jardin, faire des propositions d'implantation de végétaux, donc quelque chose d'un peu plus poussé. Mais ça m'a pris donc 1 an en tout. Et même au bout d'un an, on apprend toujours, on continue à apprendre toujours. Donc même si le centre de formation et les formateurs nous ont apporté un maximum d'éléments, mais où là on apprend le plus, je dirais que c'est dans les stages en entreprise. Moi j'ai effectué plusieurs stages dans différentes entreprises, dans différents départements. Et ce qui m'a apporté une vision un peu plus large du métier, des choses qu'on ne peut apprendre qu'en entreprise, qu'en en appliquant. Et tout en sachant que le paysage, c'est quelque chose de très vaste. Comme on dit dans le milieu, on ne sait jamais où s'arrête notre périmètre d'action. Ça peut être de la phytoépuration, ça peut être de la plantation, ça peut être de la taille, ça peut être du dallage, du pavage, de la petite maçonnerie, de l'élagage, le potager, de la création de trognes, de la création d'arbustes en taille en nuage, les niwaki. Et suite à ça, j'ai été sollicité par le centre pour intervenir en tant que formateur dans la reconnaissance des végétaux. Et j'ai pu me lancer dans mon activité. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancé. Et j'en suis ravi, j'ai une bonne cinquantaine de clients avec qui je travaille, que ce soit des particuliers en chèque emploi service, que ce soit des entreprises ponctuellement pour des prestations. J'ai des clientèles très variées. Je vais faire beaucoup du service à la personne, ça va être plutôt des retraités qui ont des petits jardins, qui ont perdu leur mari, qui s'occupaient du jardin et qui maintenant, le mari n'étant plus là et elles ne peuvent pas s'en occuper, donc moi j'interviens. J'interviens avec beaucoup de clients de ce type-là. J'ai également des clients qui vont me faire appel à moi ponctuellement pour un nettoyage à l'année. Donc je vais préparer le jardin suite à l'hiver ou pour, une fois que l'hiver est arrivé, faire un bon nettoyage pour l'arrivée du printemps. Il y a d'autres clients qui me sollicitent car ils viennent d'acheter une maison. Ils ont un jardin, mais la maison elle est neuve, donc le jardin il est à nu. Donc il faut installer les clôtures, il faut planter une haie. Il faut monter un cabanon de jardin, il faut créer un point d'eau, une mare pour la biodiversité, il faut imaginer faire de la plantation de grands sujets, donc savoir définir l'emplacement des arbres en se projetant à 10 ou 15 ans, en visualisant l'arbre qu'on plante adulte à l'emplacement où on veut le mettre. Également certains hôtels particuliers qui vont me solliciter pour remettre en état certaines plantes spécifiques. Voilà pour, je dirais, pour le type de clientèle. Et puis depuis peu, j'écris aussi des articles pour un magazine qui s'appelle Profession Paysagiste. Pour les articles, on m'envoie un sujet en particulier, puis on me demande si le sujet me parle. Le dernier sujet, c'était sur le tutorage, tout ce qui est donc comment tutorer une plante, aussi concernant l'ancrage et l'aubanage, c'est-à-dire comment, quand on plante des vieux sujets, les racines n'étant pas encore en place, il faut réussir à l'ancrer le temps qu'il s'installe bien en terre et qu'il ne tombe pas au premier coup de vent. On me soumet un sujet, ensuite c'est libre à moi de savoir si le sujet me parle et dans ce cas-là d'en faire un article. Donc je fais l'article, ensuite on le revoit ensemble pour que ça colle dans le magazine. Et puis ensuite là, l'article sera publié en avril-mai. Ouvrier du paysage et technicien des jardins et espaces verts, ce sont des formations qui depuis quelques années maintenant sont ouvertes à tout le monde. Donc les profils sont très variés, autant chez les ouvriers du paysage que les techniciens. On va avoir des jeunes qui cherchent, donc ils ont fait une porte ouverte, ils ont testé un petit peu, ça leur parle, et donc ils intègrent la formation. On va avoir également des personnes qui ont suivi à peu près le même parcours que moi, quelque chose de similaire, qui étaient dans un métier qui ne leur parlait pas forcément, quelque chose de plutôt bureautique, et qui décident de changer pour avoir quelque chose de plus manuel. Je vais avoir aussi des personnes plus âgées qui se reforment simplement pour pouvoir avoir un CDI pour continuer le travail, pour pouvoir atteindre la retraite. Donc très diversifié comme type de personnes. On a aussi de plus en plus de femmes, ça c'est bien dans le paysage qui est plutôt associé en côté masculin. De plus en plus, on a des femmes qui intègrent ce type de formation. Les difficultés qui pourraient se présenter dans ce métier, effectivement, c'est quelque chose d'assez physique. Dans mon entreprise, on intervenait de 7h du matin jusqu'à 17h le soir. C'était vraiment crevé, donc c'était très intense. Après, pour les personnes, il ne faut pas que ça leur fasse peur. Il faut juste se trouver des clients avec des jardins à la hauteur de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un client avec un énorme jardin, avec des arbres énormes qu'il faut élaguer. Dans ce cas-là, on va plutôt se diriger vers un petit jardin. Moi, je me suis commencé avec beaucoup de petits jardins. Il ne faut pas monter à une échelle à 4 mètres de haut, il n'y a pas trop de risques. On va intervenir à hauteur d'homme. Et en fait, ce qui est passionnant dans le métier du paysage, c'est que le paysage, il y aura toujours du travail. C'est que les arbres continuent à pousser. On n'a pas encore de robots qui peuvent venir remplacer le travail des humains, enfin, pas assez précis. C'est un métier où il y aura toujours du travail. En France, on est très jardin, donc on ne manquera jamais de travail. Donc ensuite, à nous de sélectionner le type de jardin qu'on peut faire, quoi. J'ai des petits jardins, des très grands jardins, des jardins très épurés, d'autres jardins beaucoup plus à l'anglaise. Donc c'est un des éléments qui peut faire peur, la charge de travail. Mais il y a aussi effectivement tout le savoir et pendant la formation, en 6 mois pour les ouvriers ou en 1 an pour les techniciens, d'apprendre par cœur 200 végétaux en français et latin, ça peut paraître difficile, mais ensuite ça vient au fur et à mesure. Il faut toujours, tous les jours, se renseigner. Maintenant, on a des applications sur les téléphones portables, on peut faire une recherche avec Google. L'application PlanteNet, par exemple, vous prenez une photo, hop, ça va vous faire des propositions de végétaux et donc ça va vous permettre de visualiser les mots. Puis ensuite de les retenir. Et le français, c'est dérivé du latin, donc on peut en déduire certains mots, parce que ça vient de la même racine, quoi.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
L'entretien professionnel, article L6315-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 1. À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et aux conseils en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste. 2. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné au 1 du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus au 1 et d'apprécier s'il a, petit 1, suivi au moins une action de formation, petit 2, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, petit 3, bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies par l'article L6323-13. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale. 3. Un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnées au petit 1 à petit 3 du 2 du présent article, ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au 1. Pour plus d'informations, rendez-vous au chapitre 5 du titre 1er du livre 3 de la 6e partie de la partie législative du Code du travail.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio et sur les réseaux sociaux @lesallumeursdereverbère. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour avec la participation de Yann, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.